bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Aliette Ovin, Cédric Fuentes, Anne-Toscane Viudès, Louis Drillon et Anne-Sophie Pierry. À la réalisation, Rafik Zénine, prise de son, Audrey Guélil.
Entendez-vous l'écho ? Arjuna Andrade.
Au troisième jour de notre semaine consacrée à l'héritage, nous partons sur les traces de la transmission familiale. Des pratiques en partage aux impératifs de reproduction sociale, la famille pèse de tout son poids sur les destinées personnelles. Il arrive pourtant que des personnes s'écartent du chemin qui leur était tracé. Sorties de route ou sorties de classe, toutes ces trajectoires viennent interroger l'évidence d'un itinéraire tout tracé. Ces incidents de parcours dans la mécanique bien huilée de la reproduction provoquent une crispation, une crise de loyauté face à ceux qui nous ont fait. Alors, quelle place laisser au libre arbitre dans le grand ordre de la transmission ? Peut-on s'en sortir tout en sortant du rang ? Ce sont toutes ces tensions au cœur de l'héritage qui nous intéressent aujourd'hui. Il est 14h sur France Culture et c'est l'heure d'Entendez-vous l'écho ? Avec nous aujourd'hui pour parler des vertiges de la transmission, Gérard Mauger, sociologue, directeur de recherche émérite au CNRS, auteur de Âge et Génération, publié dans la collection Que sais-je. Avec nous également, duplex depuis les locaux de France Bleu Aix, Vincent de Gueuléjac, sociologue clinicien, professeur émérite de sociologie à l'Université Paris Diderot et auteur notamment de La névrose de classe, mais aussi de l'histoire en héritage, tous deux publiés aux éditions Payot et Rivage. Vincent de Gueuléjac, Gérard Mauger, bonjour.
Bonjour.
Je vous propose
Bonjour.
Je vous propose pour commencer d'écouter une lecture d'En finir avec Eddie Bellegueule d'Édouard Louis.
Mon père pensait que le football m'endurcirait et il m'avait proposé d'en faire, comme lui dans sa jeunesse, comme mes cousins et mes frères. J'avais résisté. À cet âge déjà, je voulais faire de la danse, ma sœur en faisait. Je me rêvais sur une scène, j'imaginais des collants, des paillettes, des foules m'acclamant et moi les saluant, comblés, couverts de sueur. Mais sachant la honte que cela représentait, je ne l'avais jamais avoué. Un autre garçon dans le village, Maxime, qui faisait de la danse parce que ses parents, sans que personne en saisisse les motivations, l'y obligeaient, essuyait les moqueries des autres. On le surnommait « la danseuse ». Mon père m'avait imploré « au moins c'est gratuit et tu seras avec ton cousin, avec tes copains du village. Essaye, s'il te plaît, essaye ». J'avais accepté d'y aller une fois, bien plus par peur des représailles que par volonté de lui faire plaisir. J'y suis allée et suis rentrée, plutôt que les autres, car après la séance d'entraînement, nous devions nous rendre au vestiaire pour nous changer. Or, je découvris, avec horreur et effroi, et j'aurais pu y penser, tout le monde sait ces choses, que les douches étaient collectives. Je suis rentrée et je lui ai dit que je ne pouvais pas continuer. « Je ne veux plus en faire, j'aime pas ça le football, c'est pas mon truc. » Il a insisté quelque temps, avant de se décourager.
Vincent de Gueuléjac, nous entendions dans cet extrait lu par Anne-Sophie Pierry de l'équipe d'Entendez-vous l'écho, la volonté pour le père du narrateur de voir son fils lui ressembler, alors qu'ils n'ont pour ainsi dire pas grand-chose en commun. Son père va l'inscrire au même sport qu'il pratiquait lui-même quand il était jeune. Si cette scène se passe dans la douleur, elle rend pourtant compte du rôle de prescription et de transmission des parents vis-à-vis de leurs enfants. Vincent de Gueuléjac, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces différents types de transmission familiale?
Oui, ça illustre bien le poids du projet parental. Et le projet parental, il s'inscrit à la fois dans des désirs particuliers des parents par rapport à leurs propres enfants. Hein, Freud parle là de la transmission du narcissisme que les parents projettent sur leurs propres enfants. Donc ça, c'est vouloir que leurs enfants réussissent, qu'ils deviennent des grands footballeurs ou des grands danseurs. Mais là, on voit bien que c'est plutôt du côté du football. Et ça s'articule sur les habitus, sur les habitus de classe, sur les codes culturels, sur qu'est-ce qui, dans tel ou tel milieu social, est porteur d'aspiration, porteur de valeur, porteur de tout ce que les parents souhaitent par rapport à la place que l'enfant va occuper dans la société. Et donc, c'est bien l'articulation entre des désirs personnels, individuels, et puis des désirs collectifs, ou plutôt, effectivement, c'est pour ça que là, Bourdieu est intéressant sur sa notion d'habitus, c'est-à-dire on incorpore des façons d'être, des façons de penser, des façons de faire qui sont liées au milieu social. Et donc, derrière l'opposition entre le football et la danse, c'est un grand classique. Il y a le film de Billy Elliot qui le montrait parfaitement et décrivait ce que Édouard Louis décrit dans l'extrait que vous avez lu.
On va revenir sur cette notion d'habitude un petit peu plus tard, mais tout d'abord j'aimerais qu'on revienne sur cette multiplicité des éléments transmis par la famille. Il y a la question de la culture, de l'éducation aussi. Il y a la question aussi de ses désirs, de ses identifications qui sont fournies par les parents. Mais il y a tout simplement la transmission de la vie qui fait que les enfants sont redevables envers leurs parents, Gérard Mauger.
Oui. De façon effectivement biologique, génétique, c'est comme ça quoi. Bon, on est des enfants de quelqu'un. Bon, qu'on le sache ou pas, c'est comme ça quoi. Mais je voudrais revenir sur l'extrait d'Édouard Louis que vous venez de citer. Je pense que là, on a un cas, qui est un cas clinique extrêmement intéressant où finalement les parents transmettant ce qu'il est d'usage de transmettre, une des modalités une des formes prises par la transmission familiale étant la transmission qu'on pourrait dire genrée, quoi. Hein, tu es un garçon, tu es une fille, et dans la tête des gens, ça correspond à des dispositions, des goûts, des aversions, des choses qu'on doit aimer, des choses qu'on ne doit pas aimer, etc. Même si c'est totalement implicite, hein, mais bon, ça va de soi. Hein. Un vrai garçon, ça fait du foot, voilà, ça fait. En tout cas, dans les classes populaires, c'est comme ça. Et une petite fille, ça danse. Bon, ça peut faire de la danse, en tout cas. Là, c'est plutôt au-dessus, d'ailleurs, hein, à l'étage au-dessus. Donc, au fond, qu'est-ce qu'il fait? Là, le père d'Eddie Bellegueule, il fait que reproduire, finalement, hein, les dispositions genrées telles qu'on les conçoit dans les classes populaires. Voilà. Donc, il pourrait, voilà, s'il était, alors, étant... Édouard, en l'occurrence, voilà, un petit garçon, on lui transmet des dispositions de, vous voyez, des pratiques de petit garçon. Mais comme il n'a pas les dispositions qui correspondent à la pratique qu'on lui propose, évidemment, ça va créer des problèmes. Voilà. Donc on a, voilà. C'est un de ces cas problématiques qu'on doit évoquer dans cette émission.
Le père reproduit ce qu'il pense devoir transmettre à son fils, et en même temps, il a cette impression qu'en lui montrant ce qu'il aime, ce qu'il fait, ce qu'il a aimé faire quand il était plus jeune, il y aurait cette volonté chez l'enfant de le reproduire. Est-ce qu'on peut dire que c'est une forme de désir mimétique qu'il essaie de reproduire chez l'enfant, qui va parfois produire un désir, mais parfois produire aussi un rejet?
Oui, je crois dire même que, vous savez, il me semble que c'est de l'ordre du « cela va de soi ». Hein, si on faisait un entretien, enfin il est mort, je crois, le père d'Edouard Louis. Hein. Mais si on faisait non, il est pas mort, non. Enfin bref, si on lui, pour lui, c'est de l'ordre de l'évidence, vous voyez, des choses qui vont de soi, quoi. C'est comme ça de toute éternité, en tout cas à son avis, quoi. Bon, donc voilà, un garçon, ça aime jouer au football. S'il aime pas jouer au football, bon, on pourra s'en accommoder, mais a priori, ça l'interpelle. C'est bizarre pour lui. C'est voilà, tout simplement, on pourrait dire. Ça, quoi.
Mais alors Vincent de Gaulé-Jacques, vous référez notamment à Castoriadis qui explique que l'individu s'ancre dans une histoire et que justement par le simple fait d'exister et d'être l'héritier de cette famille et donc de cette histoire, il a une forme de redevabilité, si je puis dire, envers sa famille qui produit presque une forme de comptabilité, c'est les mots que vous employez ?
Oui, je ne sais pas si je parlerai de comptabilité par rapport à la dette que l'on doit aux générations précédentes. La culpabilité de ne pas correspondre à ce que le père souhaiterait que l'enfant devienne, c'est pas seulement du côté du désir mimétique, c'est aussi du côté de la projection sur l'enfant qui va, c'est ce que dit Freud, hein, de réaliser tous les désirs que les parents n'ont pas pu réaliser. Donc derrière, il y a le désir qu'il fasse du foot, mais il y a aussi le désir de peut-être que, pour le père, c'est aussi un moyen, justement, d'avoir une réussite sociale et peut-être de sortir du milieu et pas seulement d'y rester. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'essayer de comprendre les contradictions dans la transmission. Et les contradictions qui sont liées aux appartenances sociales, à l'identité héritée du côté de la transmission sur plusieurs générations des statuts sociaux, de la place, etc. Mais en même temps, une dynamique qui renvoie à une scène qui est plus inconsciente, et en particulier sur le fait que, à la fois, il y a de la culpabilité derrière l'idée de dette, hein, mais d'être redevable de ce que les parents vous ont donné la vie. Mais je crois qu'au-delà de ce que les parents nous ont donné la vie, je ne sais pas s'ils nous l'ont donné, en tout cas ils nous l'ont transmis, je crois que c'est plus juste de dire qu'ils nous l'ont transmis, il y a aussi le fait qu'ils se sont occupés de nous quand la famille fonctionne à peu près dans les codes normaux, classiques, et qu'ils ont il y a une dimension qui est inconsciente, il y a une dimension qui est affective et il y a une dimension sociale.
Mais donc du point de vue individuel, donc ça provoque une forme de tiraillement, de tension intérieure, parce que d'un simple point de vue psychologique, il y a à la fois cette volonté d'imiter, de s'ancrer dans une forme de suite, mais il y a aussi cette volonté de s'exprimer en tant que individu à part entière, d'exprimer son individualité propre. Et donc ça, dès l'enfance, ça produit des formes de tension chez la personne.
Et c'est là que c'est intéressant de remettre cette question dans une perspective socio-historique, parce que pendant des siècles et des siècles, l'identité héritée était celle qui conduisait à se construire comme individu. L'hypothèse que je développe, c'est que l'individu est le produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet. Et donc, le fait d'être produit d'une histoire, les parents étaient ouvriers, paysans, bourgeois, aristocrates, et les enfants étaient inscrits dans cette place-là. Et l'idée, c'était qu'il fallait tenir son rang, c'est-à-dire garder son rang. Et à ce moment-là, effectivement, les logiques de reproduction sociale étaient dominante. Le grand changement avec l'individualisme au cours du XXe siècle et aujourd'hui est ce que j'ai proposé d'appeler la lutte des places, c'est-à-dire le fait que chaque individu est renvoyé à lui-même pour trouver la place qu'il doit occuper dans la société, et donc avec cette idéologie de la réalisation de soi-même, et le libéralisme derrière, c'est une formidable idée que chaque individu soit pas assigné par rapport à son identité héritée et qu'il puisse être quelqu'un, devenir quelqu'un d'autre, choisir son propre destin. Et en même temps, c'est un fardeau. Richard Sennett dit, avec le développement de l'individualisme, le moi de chaque individu est devenu son principal fardeau. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'exigence d'être soi-même. Être soi-même, évidemment, ça renvoie au désir personnel, mais ça renvoie aussi à ce qu'on a intériorisé du désir des parents ou du désir de son milieu social ou du désir de la société pour soi.
Mais alors, ce désir des parents, il s'exprime notamment comme un poids parfois, et il se traduit par ce que vous évoquiez tout à l'heure, le projet qu'ils forment pour leur enfant, ou au contraire le fait qu'ils rejettent le projet que ces enfants forment pour eux-mêmes. Je vous propose d'écouter un extrait du documentaire Les Bonnes Conditions de Julie Gavras, sorti l'année dernière, et qui nous donne à entendre ce poids du projet parental sur les épaules des enfants.
Ça m'handicape d'être attirée par la musique, ça me saoule limite, quoi, parce que je me dis, pourquoi je ferais pas prépa ou quelque chose, tu vois, qui me plaît et en même temps qu'il fasse bonne impression, quoi. Quand il y a des réunions de famille, c'est « Alors Marie, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et alors ma mère qui fait « Ah, la musique et tout. » Et on m'explique « Oui, tu sais, c'est très dur, hein, Et celui qui parle, c'est un avocat, un médecin, bon. » Alors forcément, je suis un peu regardée comme c'est bizarre, quoi, de haut, par ma famille. Et pas tous, mais c'est vrai que du côté de ma mère, ils sont très bourgeois, vraiment très trop d'ailleurs. Bon, en même temps, je suis contente d'avoir une famille bourge parce que ça m'apprend la vie.
Gérard Mauger nous a entendu dans cet extrait, une jeune fille qui nous parle de l'incompréhension et en même temps un petit peu de la satisfaction de faire partie de cette famille où on lui met une forme de pression parce qu'elle désire se tourner vers la musique, ce qui n'a pas beaucoup de sens parce qu'elle vient d'une famille, elle, très bourgeoise. Est-ce qu'on peut dire que ce témoignage est représentatif du message contradictoire qui est envoyé par les parents? D'un côté, soyez heureux, faites ce qui vous plaît, et de l'autre, faites tout de même quelque chose qui nous plaît un petit peu aussi et qui va dans le sens que l'on veut.
Il y a un champ des possibles, quoi. Je dirais, avec une condition de classe déterminée, on peut envisager un certain nombre de possibilités, la plus probable étant la reproduction. C'est comme ça, hein. Les fils de médecins sont souvent médecins ou bien notaires ou avocats. Bon, voilà, c'est quand même statistiquement ça se mesure, quoi. Donc les chances de la reproduction sont quand même assez élevées statistiquement, ça, on peut le compter. Ceci dit, bon, c'est pas aussi fermé que ça, c'est pas mécanique. Hein. On ne fait pas une photocopieuse, quoi. On fait pas un fils exactement identique à son père. D'autant plus qu'il a aussi une mère, par exemple. Bon. Et que voilà, il peut être du côté de son père ou du côté de sa mère, comme on dit dans les familles. C'est important, ça. Je pense qu'il y a un collègue, Bernard Vernier, qui est ethnologue, qui montrait justement l'importance de la place dans la fratrie et de l'appropriation des enfants par la lignée paternelle ou la lignée maternelle. Bon, il avait étudié ça dans un cas particulier, l'île de Carpathos en Grèce, où c'était très ostentatoire. Mais du coup, il a fait aussi l'hypothèse que ça pourrait se reproduire aussi chez nous. Et il l'a vérifié à Lyon, auprès de ses étudiants, que la préhension sur chaque enfant, ou bien de la lignée paternelle, ou bien de la lignée maternelle, c'est-à-dire de la revendication par l'une ou par l'autre, peut s'évaluer, se mesurer même, quasiment statistiquement. Je pense à un cas qui me semble proche de celui que vous venez d'évoquer, c'est les Buddenbrook, vous savez, c'est le grand livre de Thomas Mann. Le dernier Buddenbrook, alors bah, c'est une dynastie d'un capitaine d'industrie, machin, etc. Bon, donc on attend que cet héritage, en quelque sorte, attend un héritier conforme. Hein. Il espère, en tout cas, avoir un héritier, vous savez, c'est l'héritage héritier, c'est la formule de Marx. Bon,
parlions hier, justement, de cette dynastie des Buddenbrook,
dans
le capitalisme familial.
Voilà, alors ça c'est magnifique, ouais, avec sa mère pianiste, bon, en fait le fils, voilà, le dernier fils de la dynastie Buddenbrook va être un héritier de sa mère, un artiste, donc il va hériter des dispositions artistiques de sa mère, ce qui est possible, probable, la preuve, cette femme a bien épousé un capitaine d'industrie, donc voilà, c'est deux pôles, hein, des classes dominantes, le pôle cultivé ou le pôle économique, bon, voilà, il se trouve que cet héritier présomptif va être, avoir quoi, une âme d'artiste, des dispositions artistiques qu'il a hérité de sa mère, ce qui n'est pas exactement ce qu'il faut pour faire capitaine d'industrie, quoi. Vous voyez, c'est exactement, je crois, voilà, un cas romanesque, vous voyez, mais qui, à mon avis, illustre assez bien le type de dysfonctionnement, pourrait-on dire, qui sont sociologiquement explicables. Ils sont sociologiquement explicables, par exemple, par le fait que, même si le choix du conjoint est en général homogame, il n'est pas complètement homogame. C'est-à-dire que les chances qu'un notaire épouse une peintre, une artiste, ou bon, voilà, existent statistiquement. Et là, dans ces cas-là, pour peu que, voilà, les enfants, ou tel enfant, soit le fils de sa mère plutôt que le fils de son père, il aura du mal à hériter de son père, et vice-versa, d'ailleurs.
Des cas qui sont plutôt rares dans les cas de mariage, mais aussi dans les cas de familiaux. On voit qu'il y a quand même une prédominance de la reproduction sociale chez les personnes les plus bourgeoises ou chez les plus populaires. Oui. Ce qui est lié notamment à un concept que vous avez mentionné tout à l'heure, Vincent de Gaulle-Jacques, qui est ce fameux concept bourdieusien d'habitus. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait, comment expliquer justement son fameux théoricien Pierre Bourdieu en parlant justement de cet habitus.
L'habitus, c'est pas un destin, c'est pas un caractère intelligible, ce n'est pas fatum, enfin comme on me le fait dire. C'est un système de disposition ouvert, donc qui va être constamment soumis à des expériences et du même coup transformé par ces expériences. Cela dit, je vais tout de suite corriger. Il y a une probabilité qui est inscrite dans le destin social associé à une certaine condition sociale que les expériences confirmeront l'habitus. Bon. Autrement dit, que les gens auront les expériences conformes aux expériences qui ont formé leur habitus. Bon, et du même coup, alors, cela dit, maintenant je veux dissiper une autre difficulté. Je suis un peu long, mais je crois que c'est important pour lever des malentendus. L'habitus ne se révèle, j'ai dit, c'est un système de virtualité, finalement. Il ne se révèle qu'en référence à une situation. Et contrairement à ce qu'on me fait dire très souvent, l'habitus n'est pas ce qui... C'est dans la relation avec une certaine situation que l'habitus produit quelque chose. Bon, il est comme un ressort, bon, mais il faut un déclencheur. Bon. Et selon la situation, l'habitus peut faire des choses inverses.
On entendait donc Pierre Bourdieu dans l'émission À voix nue le 4 février 1998, 88, pardon, sur France Culture, qui nous parle de ce fameux habitus, ce système de disposition ouvert soumis à des expériences. Vincent de Gaulle-Jacques, l'habitus serait donc quelque chose de mouvant, de changeant.
Oui, c'est une disposition ouverte. C'est vraiment intéressant de l'entendre dire ça parce que c'est pas un déterminisme mécanique qui s'applique comme ça, hein, par rapport à une certaine idée du caractère implacable de la reproduction sociale. Et d'ailleurs, dans l'interview, c'est intéressant la façon dont la fille dit « Ce qui m'handicape, c'est d'être attirée par la musique et moi, j'aimerais faire une prépa. » Or, elle prend le contre-pied de ce que moi, j'ai entendu dans beaucoup de familles bourgeoises, qui est dit dire, bon, tu vas faire des études, tu seras bon élève, tu vas faire une prépa, et puis une bonne école de commerce, et après tu pourras choisir. C'est-à-dire, après tu pourras faire de la musique si tu veux bien, parce que la musique ça mène à rien, tandis que les études de gestion, les prépas, les grandes écoles, ça mène à quelque chose. Et là c'est très très intéressant, parce que ça illustre bien hein, le fait d'adapter ce qu'on a intériorisé comme habitus en fonction des situations que l'on rencontre. Et là, il y a vraiment une transformation importante dans la transmission et dans le projet parental. Jusqu'à une période, jusqu'à la fin du XXe siècle, ou dans les années 70, chez les bourgeois, effectivement, le projet parental dominant, c'était pour les garçons, deviens avocat, ingénieur, médecin, et pour les filles, tu épouseras un avocat, un ingénieur ou un médecin. Et non seulement il y avait cet projet parental qui était implicite parce que on l'avait fait de génération en génération, puis ça avait marché, mais on avait aussi le mode d'emploi pour y arriver. Et les grands changements, c'est deux choses. La première, c'est que aujourd'hui, la lutte et la compétition pour devenir avocat, ingénieur, médecin, il suffit plus que les parents le soient pour que les enfants arrivent à l'être, mais surtout parce qu'ils sont en compétition avec d'autres enfants qui viennent d'autres classes sociales et qui ont les mêmes aspirations. Et puis la deuxième chose, c'est que dans les milieux, dans les classes des paysans, des ouvriers, des employés, le projet parental fonctionnait pas d'une façon, d'une injonction aussi claire. Et pendant l'introduction de l'école a été un élément tout à fait important, et le fait qu'il y ait une compétition scolaire qui fonctionnait pas tout à fait sur les mêmes règles que la compétition sociale ont fait que des enfants des classes moyennes, mais aussi des classes populaires, ont pu réussir à l'école et devenir compétitifs sur le marché des places. Hein. Et donc la lutte des places qui s'est développée s'est substituée d'une certaine façon à la lutte des classes. C'est-à-dire que c'est l'origine, hein, le poids des classes sociales, le poids de l'identité héritée est toujours présent. On a plus de facilité et on a les habitus plus conformes hein, pour réussir les grandes écoles quand on vient d'un milieu qui les a déjà fait par rapport aux milieux qui ne connaissent pas les modes d'emploi de la réussite. Mais en même temps, la possibilité, la mobilité et la lutte des places traversent l'ensemble des classes sociales, et chaque individu aujourd'hui le projet parental, c'est moins un projet explicite et concret, tu deviendras ceci ou tu prendras ma succession à la ferme ou tu vas réussir à l'école, etc. C'est tu feras bien ce que tu voudras, l'important c'est que tu sois heureux.
C'est que tu sois heureux, mais c'est aussi parfois que tu sois le meilleur. Vous nous dites que l'individu est même un produit du capitalisme. Est-ce à dire que l'enfant est devenu un capital comme les autres, qu'on peut mettre en concurrence avec celui d'autrui pour lui le faire avancer, mais aussi se faire avancer sa famille?
Tout à fait. Je citais tout à l'heure Richard Sennett. Hein, le moi de chaque individu est devenu son principal fardeau. Et j'ajoute, le moi de chaque individu est devenu un capital qu'il faut faire fructifier. Et que ça, c'est l'idéologie de l'excellence qu'on a vue dans les entreprises, mais qu'on voit aussi à l'école, hein, et qu'on voit aussi dans les universités, les laboratoires d'excellence, les initiatives d'excellence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui donne la légitimité de la réussite dans la société, ça serait cette idée de l'excellence. Et on le voit bien avec Emmanuel Macron qui célèbre les premiers de cordée, avec l'idée que le premier de cordée, il va entraîner tous les autres vers l'excellence, et que l'excellence, c'est effectivement la voie royale pour réussir dans la société.
Mais cette excellence, elle s'ancre dans un modèle qui est celui du modèle capitaliste et qui donc se fonde sur l'argent et même la monnaie. En fait, on est le meilleur quand on est celui qui est le mieux payé. Et donc, on passe de cette lutte des classes qui est une forme de statut à une lutte des places. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce concept que vous mobilisez pour essayer de montrer comment les individus sont mis en compétition pour être les meilleurs?
Donc, la lutte des places, elle a deux visages. Elle a le visage de l'excellence et elle a le visage de l'exclusion. Le visage de l'exclusion, c'est que chaque individu est renvoyé à lui-même sur la place qu'il, la responsabilité qu'il a de la place qu'il va occuper dans la société. Et donc, on a rendu le chômeur responsable du chômage, par exemple. C'est-à-dire, le chômage, c'est un problème économique qui est lié au décalage structurel entre le nombre d'emplois que l'économie produit et le nombre de personnes actives en âge d'occuper ces emplois. Et en fait, dans les processus, on renvoie au chômeur la responsabilité du fait qu'il soit au chômage parce que il serait trop formé, pas assez formé, il aurait pas fait ce qu'il fallait, il voudrait tricher, etc. Et donc, il y a quelque part, hein, cette injonction de dire, c'est toi qui es responsable de la place que tu occupes dans la société, comme si cette place ne dépendait pas aussi d'éléments objectifs que Robert Castel avait bien mis en évidence par rapport quand il disait pour être un individu, exister comme individu dans la société, il faut avoir un certain nombre de supports qui sont des droits, la propriété de soi, etc. Et du côté de l'excellence, effectivement, la lutte des places fait rage, c'est-à-dire que il y a une espèce de compétition permanente au niveau scolaire, et les enfants intériorisent aujourd'hui, par exemple, que si ils sont pas dans les bonnes classes, ils ont pas les bonnes notes, etc. Ben ils vont être dans l'échec et ils n'auront pas, et les parents ont une anxiété permanente par rapport à la réussite scolaire de leurs enfants, etc. C'est-à-dire toute la société est tendue vers le fait que ça dépend des résultats scolaires, que pour exister, il faut être excellent. Mais on oublie la face d'ombre de l'excellence. J'ai écrit avec Nicole Aubert un livre sur le coût de l'excellence, qui montre bien que l'excellence, c'est d'abord une pression permanente, donc avec une angoisse de l'échec qui est terrible pour tout le monde, hein, et donc ça cause les maladies de l'excellence, le burn-out, l'épuisement, le stress, etc. Mais aussi, et surtout, ce que vous dites, c'est-à-dire que comme cette excellence, elle est mesurée en termes d'indicateurs quantitatifs, en termes de résultats sportifs, en termes de résultats financiers, etc. Eh bien, maintenant, pour être excellent, ça normalise une forme de tricherie. C'est le syndrome de Lance Armstrong. Tout le monde savait qu'il se dopait, parce qu'on peut pas aujourd'hui, si on ne se dope pas, avoir des résultats en permanence qui sont les meilleurs. Et en même temps, tout le monde le sait, mais
tout le monde le sait, mais personne. Personne n'y fait rien parce que c'est une forme de perpétuation du système. Vous parliez de cette importance de l'école dans ce mode de reproduction ou d'émancipation. Gérard Mauger, vous évoquez cette question de l'école et vous nous dites qu'il y a une forme de consentement à la scolarisation comme une forme d'émancipation de la part des ouvriers qui serait un phénomène nouveau. Dans quelle mesure ?
Alors, écoutez, oui, il faudrait retracer une histoire longue qui me semble importante par rapport à tout ce que vient de dire Vincent de Lejac. Là, je pense que, bon, un élément sans doute tout à fait essentiel, c'est le passage d'un mode de reproduction générique à base familiale, où l'héritage économique était dominant. Ça ne pose pas de problème particulier, l'héritage économique. Ça se transmet sans trop de difficultés. Je vous le donne, mais vous l'avez, quoi. Bon, voilà. Il y a un autre mode d'héritage sur lequel Bourdieu a beaucoup insisté, qui me semble tout à fait essentiel, qui est l'héritage culturel, c'est-à-dire des manières d'être, des manières de faire, etc. À commencer par la langue, par exemple. Hein. Ce dont on hérite d'abord de sa famille, c'est la langue qu'on parle. Il y a différentes modalités pour parler la même langue, quoi, avec des modalités syntaxiques, des modalités de vocabulaire, etc., plus ou moins étendues, etc., ce que Bourdieu appelait l'héritage culturel, ils passeront, hein, c'est un vieux livre, Les Héritiers, où il montrait voilà, une statistique récurrente. Hein, c'était vrai dans les années 60, 64, les héritiers. C'est vrai encore aujourd'hui. Si vous voulez expliquer des écarts de réussite scolaire entre les enfants de telle ou telle origine sociale, vous prenez la mesure du capital scolaire comme indicateur de capital culturel détenu par les parents, grosso modo le diplôme des parents, et vous aurez une probabilité très forte sur le parcours scolaire des enfants. Bon, c'était vrai. Ça l'est encore. Ça a changé, bien sûr, ça a changé, on va y finir dans un instant, mais il faut quand même retenir ça, qui me semble tout à fait essentiel. Il y a, voilà, comment expliquer, je dirais, que l'héritage culturel, ce qu'on peut appeler l'héritage culturel, fonctionne si bien à l'école. Il suffit de prendre une statistique simple, très connue. Qui réussit le mieux à l'école ? Les enfants de professeurs. Voilà, les enfants de professeurs sont les champions de la réussite scolaire. Pourquoi ? Bah parce qu'ils sont toujours au fond, hein, qu'ils soient à la famille ou à l'école, ils sont toujours à l'école. Ils sont comme des poissons dans l'eau. Et ils vivent dans la culture scolaire perpétuellement. Donc ils sont pas dépaysés. Quand ils arrivent à l'école, ils sont comme chez eux en quelque sorte. Vous voyez, ils sont chez eux. Et donc il y a toutes les chances que tout se passe bien pour eux. Bon, ça reste vrai. Et ça reste vrai. Hein, ça reste le facteur explicatif, statistique, voilà, qui en dépit de ce qu'on appelle, à juste titre, pour partie, la démocratisation scolaire. La démocratisation scolaire, c'est quoi? C'est le fait qu'on reste, quelle que soit son origine sociale, on reste à l'école de plus en plus longtemps, et de ce fait, on acquiert des diplômes de plus en plus élevés. Mais ce que montre aussi la statistique, désolé de brandir des statistiques, mais enfin c'est important pour voir un peu ce qui se passe, c'est que tout se passe comme si effectivement tout s'était élevé, mais il y a une espèce de tout s'est, vous voyez, le niveau général s'est élevé, mais avec une translation générale des écarts. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a, vous voyez, les écarts sont conservés en même temps que tout le monde s'élevait vers le haut. Vous voyez. Bon, alors pourquoi je dis ça? Ça me semble important d'abord de rappeler cette base du fonctionnement du système scolaire. Ensuite, quand vous me posez la question particulière, plus spécifique, de la place que les familles populaires ont pris dans la compétition scolaire avec leurs enfants, c'est que j'ai compris qu'on vivait dans un mode de reproduction à composantes scolaires, disait Bourdieu, encore, hein, c'est que pour accéder à une place, il suffit pas d'en hériter, parce qu'on n'hérite pas effectivement d'une position d'avocat, ou même de notaire, bon, ni de médecin, bon, il faut aussi faire les unités de correspondance, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de droit d'entrée, hein, scolaire à acquitter pour accéder à pratiquement toutes les positions de l'espace social. Bon, et c'est vrai de haut en bas. C'est même devenu de plus en plus vrai. C'est-à-dire que les positions où on accédera, quoi, bon, à vendre sur le marché du travail, c'est pas terrible, terrible aujourd'hui, hein, sur le marché du travail tel qu'il existe en France aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir un minimum de qualification et un maximum, c'est mieux. Alors les familles populaires ont appris ça depuis longtemps. Hein. C'est que pour que leurs enfants
s'en. Les familles populaires ont intégré la nécessité d'avoir des diplômes,
oui,
et de reprendre à leur compte cette culture.
Bien
qui
sûr.
Pour autant, dans un premier temps, les exclut plutôt.
Bien sûr. Voilà, ils ont dû reprendre à leur compte ce projet scolaire, ce projet de réussite scolaire minimale pour les enfants, ne serait-ce que pour qu'ils échappent au chômage, quoi. C'est-à-dire que s'ils ne veulent pas se retrouver effectivement au chômage, c'est-à-dire s'ils n'ont aucun diplôme, ils vont se retrouver concurrencés par ceux qui ont même un petit diplôme. Vous voyez, ceux qui ont un CAP ou un BEP vont venir concurrencer ceux qui n'ont rien. Et il y en a encore qui n'ont rien, qui sortent de l'école sans diplôme, se rendent de 10-15% d'une génération scolaire chaque année. Hein. Bon, alors juste au-dessus, il y a ceux qui ont des CAP et BEP, mais vous voyez, qui viennent concurrencer et ainsi de suite. Ceux à quoi on avait accès. Quand on était titulaire d'un CAP, on est aujourd'hui concurrencé par ceux qui ont un bac pro, hein, qui sont eux-mêmes concurrencés par, vous voyez, ceux qui ont, vous voyez, un DUT, bon, ainsi de suite, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de concurrence en cascade comme ça qui s'est installée. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? Myself right out the road. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? Myself into the tomb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb. Is it too wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? I like the need to have a load. Oh, 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 oh. I
myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb.
Cosmic Dancer de T-Rex, nous en parlions tout à l'heure, c'était la musique du film Billy Elliot.
Entendez-vous l'écho ? Une émission présentée par Arjuna Andrade.
Il est 14h35, vous êtes sur France Culture et nous parlons de l'héritage social et culturel avec Vincent de Gaulé-Jac et Gérard Mauger. Nous parlions à l'instant de l'importance et de la place centrale de l'école justement dans cette nouvelle compétition, mais aussi dans cette possibilité de s'émanciper, de trouver des nouvelles places. Vincent de Gaulé-Jac, est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelles sont ces différentes trajectoires de déplacement possibles? Il y a des personnes qui évoluent vers le haut, plutôt vers le bas. Tout cela est très subjectif, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu quelles sont ces différentes trajectoires possibles ?
Oui, c'est là où on voit combien la question autour de l'école a changé et combien elle est importante. Avant, l'école, c'était vraiment la voie royale pour la promotion sociale. C'est ce qui allait permettre à des enfants, des classes populaires, des enfants de paysans, des enfants d'ouvriers, d'avoir une reconnaissance sociale et puis d'accéder par le diplôme à la possibilité de pouvoir accéder à d'autres classes sociales, un statut valorisé et donc de sortir d'une condition sociale dominée et donc d'être la voie pour l'émancipation. Alors aujourd'hui, on voit que cette belle espérance qui était au cœur du contrat social, du projet républicain, de la démocratie, ça fonctionne plus. On peut être inculte et occuper les positions les majeures parce qu'on a beaucoup d'argent. On peut être cultivé et se retrouver au chômage. Et donc, il y a un phénomène tout à fait nouveau avec ça, qui s'est développé avec justement cette lutte des places. C'est que, avant, quand on avait un diplôme, jusqu'aux années 1960-70, il suffisait d'avoir le bac pour pouvoir accéder à l'enseignement supérieur et donc à une position de cadre. Et aujourd'hui, c'est plus vrai. Et on voit des gens qui ont des bacs plus 4, plus 5, des masters, des doctorants, et qui se retrouvent dans une très grande précarité.
C'est cette peur qui ressentent beaucoup de personnes actuellement, de voir leurs enfants qui vivraient moins bien qu'eux avec les mêmes diplômes et que l'on retrouve beaucoup notamment dans les mouvements sociaux actuels, les gilets jaunes, etc., de ces travailleurs pauvres ou de ces personnes qui ont deux meilleurs diplômes ou les mêmes diplômes que leurs parents et qui pourtant vivent moins bien qu'eux.
Et donc, il y a à la fois une déception de ce projet de dire qu'il suffit d'être bon élève pour pouvoir réussir, hein, et ça marche plus. Et donc, il y a plus, dans les gilets jaunes, il y a ça aussi, c'est-à-dire on n'a pas d'avenir. C'est-à-dire que les parents ne voient plus qu'est-ce qu'ils peuvent conseiller à leurs enfants pour essayer de leur permettre d'occuper une place qui soit enviable, ou en tout cas qui leur permette d'exister socialement. D'où le fait que beaucoup de ces jeunes partent à l'étranger parce qu'ils espèrent qu'à l'étranger ça sera plus facile, ou alors se retrouvent à 30 ans, à 40 ans, dans le sentiment d'un échec, dans le sentiment de ne pas encore avoir réussi à trouver leur place dans la société, et qui vont basculer. Alors, on voit bien les différences, par exemple, de salaire dans les cités, dans les périphéries, comme on dit aujourd'hui, 12 euphémismes, pour dire les quartiers qui sont les plus dans la pauvreté ou dans la misère, dans les difficultés complètes, etc. On voit bien que le modèle de celui qui réussit, quand on fait du trafic de drogue, on gagne beaucoup plus que son propre père qui était un homme ou sa mère qui ont un travail stable, qui sont salariés, etc. Et beaucoup plus que tous ceux qui se retrouvent sur le carreau ou dans la précarité.
On peut avoir cette attirance d'une forme d'argent facile, mais on a aussi des exemples et des figures de ces personnes qui ont réussi à s'élever, si l'on peut dire, plus haut que leurs parents. L'une des figures marquantes de cette ascension sociale est celle du sociologue Didier Héribon. Je vous propose d'écouter ce qu'il dit de cette trajectoire dans son livre « Retour à Reims ».
Comme était grande la distance qui me séparait désormais de cet univers qui avait été le mien et dont j'avais, avec l'énergie du désespoir, voulu ne plus faire partie. Je dois avouer que, tout en me sentant toujours proche et solidaire des luttes populaires, tout en restant fidèle à des valeurs politiques et émotionnelles qui font que je vibre quand je vois les grandes grèves de 1936 ou de 1968, j'éprouvais au plus profond de moi-même un rejet du milieu ouvrier tel qu'il est réellement. Je détestais de plus en plus me retrouver au contact immédiat de ce qu'étaient, de ce que sont les classes populaires. Dans les premiers temps de mon installation à Paris, quand je continuais de voir mes parents qui habitaient toujours à Reims, dans la cité HLM où j'ai vécu toute mon adolescence, quand je déjeunais chez eux le dimanche ou chez ma grand-mère qui habitait à Paris et à qui ils venaient rendre visite de temps à autre, une gêne difficile à cerner et à décrire s'emparait de moi, devant des façons de parler et des manières d'être si différentes de celles des milieux dans lesquels j'évoluais désormais, devant des préoccupations si éloignées des miennes, devant des propos où un racisme primaire et obsessionnel se donnait libre cours dans chaque conversation, sans que l'on sache très bien pourquoi ou comment tout sujet abordé, quel qu'il soit, y ramenait inéluctablement. Cela s'apparentait pour moi à une corvée, de plus en plus pénible à mesure que je me changeais en quelqu'un d'autre.
Gérard Mauger, nous entendions un extrait de Retour à Reims, lu par Cédric Fuentes de l'équipe d'Entendez-vous l'écho, dans lequel l'auteur nous parle de cette distance, de ce rejet même qu'il éprouve peu à peu vis-à-vis de son milieu d'origine. On peut dire que cette forme de rejet, de ces déracinés des milieux populaires, de honte, est-ce que c'est quelque chose d'assez classique chez ces transfuges de classe, chez ces déracinés ?
Oui, sous des modalités qui sont variables hein, d'un cas à l'autre. Mais là encore, ça me semble assez facilement explicable. C'est-à-dire, si au fond, vous faites une carrière issue de classe populaire, vous faites une carrière scolaire assez longue, vous éloignez. Vous voyez, en termes de distance symbolique, bien sûr, hein, de votre famille d'origine, de plus en plus. Vous, en quelque sorte, pour employer un lexique sociologique, vous changez d'habitude. Votre habitude se convertit, c'est-à-dire ce qui était vos goûts, vos manières d'être, de faire, de voir, etc. autrefois, se transforme pour devenir d'autres. Et un univers qui vous semblait aller de soi, c'était le vôtre tout simplement, l'univers familial d'origine, petit à petit, peu à peu, s'éloigne de vous et vous portez sur lui le jugement que ce... de la classe du dessus, hein, auquel vous êtes petit à petit incorporé, porte sur cet univers d'origine. Donc vous pouvez en venir finalement à détester ce que vous adoriez. Bon, alors autour de ça, voilà, ça c'est une forme limite, hein. Parce qu'avec une tension là un peu dramatique dans le cas de Didier Héribon, bon, ça peut être beaucoup plus soft, beaucoup, parce que ça dépend des distances franchies, ça dépend comment les parents le gèrent, etc.
Ça dépend aussi de l'expérience qu'on a eue soi-même du fait de grandir dans un milieu populaire.
Oui, bien
sûr. On a senti une distance dès le début,
bien
comme
sûr.
Édouard Louis, comme Héribon.
Bien sûr, où on peut, je sais pas, Bourdieu lui-même, qui, oui, c'était aussi son histoire à lui, dans une certaine mesure. Hein, il vient d'une famille de paysans du Béarn, bon, là, il devient un professeur à Collège de France, ça fait une grande, grande distance franchie. Bon, je pense pas que lui aurait dit ce que dit Héribon, mais parce que ça le correspondait, je crois, à une attitude différente. Mais néanmoins, il évoque, en parlant de lui, ce qu'il faisait assez rarement, l'idée d'un habitus clivé. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une partie de lui ancienne, conservée, hein, des manières d'être et de faire qui héritaient de sa famille d'origine, et puis celle d'un prof au Collège de France qu'il était devenu, et qui cohabitait comme elle pouvait à l'intérieur d'un même individu, qui pouvait être un peu ça, mais aussi tout autre chose, quoi. Bon, c'est encore une des modalités. Le clivage, c'est une possibilité. Le changement radical est une autre possibilité, que semble évoquer là. C'est une espèce d'impossibilité de faire cohabiter en soi des goûts qui sont vécus comme totalement antagonistes, contradictoires, ou qui menacent l'individu d'explosion, en quelque sorte, vous voyez.
Mais ce verdict social, pour reprendre les termes d'Héribon dans un autre de ses ouvrages, il concerne non seulement la personne qui a changé de milieu, mais il concerne aussi les personnes qui vont le juger lui-même par rapport à ce changement de milieu. Et à cet égard, on peut dire que l'habitus et la classe sociale restent pertinentes parce que les personnes qui sont de bourgeoisie, on va dire plus ancienne, vont continuer de voir cette personne comme un parvenu ou comme de manière plus positive, comme un transfuge de classe. Mais c'est quand même une forme de violence au carré puisqu'il est quand même ramené à cette origine.
Oui, bien sûr. Oui, c'est une des manières de conserver la domination que de se revendiquer l'ancienneté de la culture non incorporée, quoi. Dire moi, voilà, je suis né dedans tout petit, quoi. Vous n'êtes jamais qu'un parvenu d'ailleurs de date récente. Vous n'êtes pas né comme ça. Donc ça peut être une manière, effectivement, d'afficher, si on peut, sa supériorité. Un autre aspect que je voudrais signaler qui me semble intéressant, c'est par rapport à ce type-là de trajectoire. C'est ce qu'on peut appeler, ce que Bourdieu avait appelé les contradictions de l'héritage. C'est-à-dire, quand on est un fils de famille populaire et qu'on a un père qui vous dit « tu vas réussir à l'école et devenir un autre », hein, il faut pas oublier, je crois, que ce père dit aussi « ne deviens pas ce que je te dis de devenir ». Parce que si tu deviens vraiment, si tu réalises mon projet ou le projet que j'énonce explicitement, tu vas devenir un autre, tu t'éloigneras de moi et tu me dévalueras. Hein. C'est-à-dire que finalement, il y a une espèce de menace, vous voyez, qui est intrinsèque à ce projet d'ascension sociale, qui est la réussite de ce projet, ça implique la dévaluation du père, ce qui est quand même un peu dur à vivre. Et c'est ça, là, je crois, un autre aspect des contradictions de l'héritage qui sont très très fortes. On voit ça chez Annie Ernaux aussi, par exemple, hein, qui exprime très très fortement, bon, dans ce très beau livre qu'elle avait consacré à son père, vous voyez, La Place, bon, ouais. Voilà, où elle explique ça au fond, hein, elle se fait une espèce de, je dis une fois, oui, ethnologue organique, hein, des transfuges de classe, quoi, où elle exprime voilà, les tensions inévitables et qui sont liées à tout déplacement de grande amplitude dans l'espace social.
Vincent de Gaulle-Jacques, on parlait d'Annie Ernaux. Pour elle, elle explique dans l'un de ses ouvrages aussi qu'une manière de dépasser justement cette humiliation, c'est de passer par l'oubli. Est-ce qu'il y a des stratégies qui se mettent en place, conscientes ou inconscientes, justement pour essayer d'oublier cette forme de tension intérieure?
Oui, c'est ce que j'ai essayé d'analyser dans la névrose de classe, hein, ces conflits de loyauté quand on change de classe sociale entre ce qu'on garde de l'identité héritée et ce qu'il faut acquérir dans son identité acquise et qui a des répercussions à la fois conscientes en termes de conflits de loyauté ou autres. Et Annie Ernaux met en exergue, hein, de son ouvrage « Écrire, ce dernier recours quand on a trahi ». Et donc il y a quelque chose qui la lie à ses parents, et en même temps, et en particulier à sa mère, dont elle reçoit, hein, la réalisation d'un désir de promotion sociale, de changer de classe, de réussir, etc. Et en même temps, en réussissant ça, elle va intérioriser le regard de mépris qu'elle voit chez les clientes, par exemple, de l'épicerie. Annie Ernaux parle de mon milieu, mes parents, ces boutiquiers cracra. Et elle décrit très bien, hein, dans son ouvrage, comme les contradictions dans lesquelles le met à la fois le fait que ce qui la lie à son père et sa mère, l'affection qui la lie, et en même temps que sa mère qui lui demande de s'élever la met en difficulté puisque elle va intérioriser ce regard condescendant, hautain, méprisant qu'elle voit dans le regard des jeunes filles. Hein. Elle se retrouve dans l'école des beaux quartiers, elle voit bien les parents de ces petites filles et le regard qu'ils portent sur elle, par exemple, qui est mal fagotée, etc. Et donc l'humiliation et la honte sont des composantes très très fortes, hein, qui expriment en fait comment les rapports de domination ne sont pas uniquement des rapports de classe en extériorité des individus, mais ils sont intériorisés par rapport à des figures d'identification et des sentiments de déchirement interne. Bourdieu parle pas seulement de cliver, mais d'habitus déchirés aussi, hein. C'est-à-dire, c'est à l'intérieur qu'il y a une partie qu'on ressent, hein, ces conflits d'identification entre ceux qui sont présentés comme modèles, mais que l'on haït parce que on a vu combien ces modèles dominants étaient méprisants, hautains et qu'on veut pas être comme eux. Et en même temps, on ne peut plus être comme du côté des humiliés, du côté de ceux qui sont soumis, qui ne disent rien, qui font des grands sourires à ces gens qui viennent dans la boutique de ses parents ou autre. Et donc, elle essaye de trouver comment faire par rapport à ces déchirures internes, par rapport à ces contradictions externes. Et c'est là que ce à quoi j'en arrive, hein, par rapport à la question de la reproduction, c'est qu'en fait, c'est dans les réponses que le sujet apporte à ces contradictions qu'il rencontre dans son existence, qu'il va advenir comme sujet. Entre Bourdieu et Freud, il y a Sartre qui dit l'important n'est pas seulement ce qu'on a fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Oui, c'est et cette... Annie Ernaux dans son écriture, Didier Ribon dans son écriture, tous ceux qui, confrontés à ces enjeux, ces trajectoires de promotion et ces conflits-là, le fait de se mettre en analyse par rapport à eux, il y en a beaucoup qui deviennent sociologues d'ailleurs, hein, le fait d'être sociologue ou travailleur social ou autre, c'est un moyen de répondre, de trouver des médiations par rapport à ces contradictions.
D'autant que cette douleur dont on parlait à l'instant peut être une forme de douleur de la douleur, parce qu'en même temps qu'on intériorise le regard jugeant sur soi-même et sur ses origines, on se rend compte que l'on se voit par ses lunettes, et donc on a une honte de cette honte qui peut être extrêmement difficile à gérer, à contenir pour une personne qui essaie de se comprendre et qui essaie de s'analyser. Gérard Mauger.
Il y a un autre très beau cas, oui, auquel je pense, c'est celui de Martha Eden, de Jack London, voilà, qui est un cas magnifique, je crois, qui est une histoire possible du même type. Hein, Martha Eden, il est bon, voilà, il n'a pas fait d'études, c'est un travailleur, il est marin des derniers temps de sa vie, et il se trouve en contact avec un univers bourgeois cultivé. Il tombe amoureux fou de la fille de la maison, voilà, bon. Mais comment faire pour la conquérir? Bon, alors ça suppose des tas de choses, mais enfin, j'ai pas le temps d'y revenir. Entre autres, ça, il y a une véritable travail, une entreprise de conversion des habitudes, il va devenir un homme cultivé, un écrivain qui sait se tenir dans les salons, qui parle bien, etc. Bon, il réussit sa conversion à marche forcée, il fait en peu de temps, en autodidacte, ce que le système scolaire met 15 ans à faire de vous, et au bout de ça, il devient une personnalité possible dans cet univers qui lui était totalement étranger. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'il s'opère une deuxième conversion qui est tout à fait étrange, c'est-à-dire que, alors que sa conversion initiale va l'amener à s'acculturer à ce monde qu'il admire initialement, petit à petit, en découvrant ce monde, il va faire aussi découvrir ce que vous disiez à l'instant, le regard par exemple que ce monde porte sur le monde d'où il vient, le regard qu'il porte sur lui, et va finalement opérer un espèce de retournement qui va le porter à une véritable aversion à l'égard de ce monde. Alors, c'est compliqué parce que c'est tragique, d'ailleurs, dans le cas de Martha Eden, parce que, à la fois, finalement, ce monde qu'il a adoré, auquel il s'est converti, finalement, le dégoûte profondément. En même temps, ce qu'il est devenu fait que son monde d'origine, il ne peut plus y retourner parce qu'il n'y est plus. Le regard qu'il porte sur lui n'est plus celui qu'il portait autrefois. D'ailleurs, le regard qu'il porte eux aussi sur lui n'est plus le même, etc. Donc, il n'a plus sa place. Il n'a sa place nulle part. En réalité, Martha Eden, pof, ils sont à l'eau et on ne parle plus de lui, quoi. L'issue, c'est la mort là, dans ce cas-là, parce qu'il a littéralement plus de place, hein, dans un univers social avec un haut et un bas. Ouais, en bas, c'est plus sa place. En haut, il trouve que c'est une place dégoûtante, il n'en veut pas. Donc voilà, il lui reste le suicide.
Comme dirait Annie Ernaux, il a le cul entre deux chaises et c'est très difficile à tenir. Mais là, on parle de ceux qui ont réussi à passer, à intégrer une autre classe. Mais il y a aussi ceux qui restent dans ces classes populaires et pour qui cette violence symbolique est d'autant plus forte que personne ne remet en cause la légitimité et la domination de ces éléments de culture. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Héribon, justement, dans Retour à Reims.
Quand Bourdieu s'interroge sur la fonction réelle d'un système d'enseignement, qui fonctionne de manière à éliminer de l'école, tout au long du cursus scolaire, les enfants des classes populaires, et à moindre degré des classes moyennes, je ne puis m'empêcher de voir dans ce système, tel qu'il fonctionne sous nos yeux, une véritable machine infernale, sinon programmée pour atteindre ce but, du moins aboutissant à ce résultat objectif, rejeter les enfants des classes populaires, perpétuer et légitimer la domination de classe, l'accès différentiel aux métiers et aux positions sociales. Une guerre se mène contre les dominés, et l'école en est donc l'un des champs de bataille. Les enseignants font de leur mieux, mais ils ne peuvent rien ou si peu contre les forces irrésistibles de l'ordre social, qui agissent à la fois souterrainement et au vu de tous, qui s'imposent envers et contre tout.
On parlait de l'école comme un espace d'émancipation, mais ça peut aussi être un espace d'une extrême violence sociale et d'une extrême violence symbolique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Gérard Mauger, ce que c'est que cette violence symbolique et comment est-ce qu'elle est perpétuée? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce verdict de l'école comme...
Oui. Oui, je crois. Bon, même s'il y a des partiels, hein, on ne peut pas unilatéralement condamner l'école. L'école, c'est aussi un instrument de transmission de connaissances. Bon, et voilà, je vois pas comment un intellectuel, et Eric, on serait évidemment d'accord, pourrait dévaluer ou nier le rôle, ce rôle aussi qu'à l'école. Mais au-delà de ce phénomène de transmission de connaissances, il y a ce phénomène dont on a déjà un petit peu parlé, qui est la reproduction des classes sociales qu'effectue à son corps défendant, peu importe, mais qu'effectue de fait le système scolaire. Donc en ce sens-là, on peut aussi parler effectivement d'une machine infernale. Hein, alors une machine qui est d'autant plus infernale qu'elle légitime sa fonction de reproduction aux yeux même de ceux qui en sont les victimes. C'est-à-dire qu'elle, voilà, l'école explique aussi, a une explication toute prête et que tout le monde reçoit et en général intériorise comme étant la clé du succès ou de l'insuccès scolaire. C'est ce que Bourdieu et Passeron appelaient l'idéologie du don, c'est-à-dire qu'au fond, la clé de sens commun pour expliquer la réussite ou l'échec scolaire, c'est le don, les faits, quoi, les bonnes faits qui sont penchées ou pas sur bonne verso. Il y a ceux qui ont eu de la chance, ils sont nés sous une bonne étoile, ils étaient bons pour l'école et ils ont réussi. Voilà. Bon, donc, d'une certaine façon, comme tout le monde intériorise cette idéologie du don, qui existe sous une autre forme, hein, c'est le don des faits où il y a aussi le mérite. Ça, c'est l'autre pôle, très très fort, c'est très puissant. C'est aussi, il a réussi parce qu'il bossait vachement, lui. Hein. Il s'est vraiment beaucoup fatigué, etc. Mieux vaut d'ailleurs pour réussir vraiment être doué et bosseur. avoir et les faits et le mérite, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est l'explication, la légitimation que l'école produit des classements qu'elle opère. Hein. Elle exerce, en ce sens-là, une véritable violence symbolique sur ceux-mêmes qu'elle exclut, dans la mesure où ceux qu'elle exclut acceptent cette explication comme étant la bonne, parce qu'ils n'en ont pas d'autres. Voilà, ils n'en ont pas d'autres à proposer, parce que ce sera un peu compliqué de leur expliquer les héritiers, quoi. Et puis personne s'en charge vraiment. Quoi.
Une disqualification qui est d'autant plus forte qu'elle est non seulement symbolique, mais qu'elle est aussi économique et politique, puisque aujourd'hui le seul élément de réussite, c'est celui économique.
Bah oui, bien sûr. C'est-à-dire que l'école dit t'es nul, et si t'es nul, c'est terrible, quoi. Hein. Si t'es nul, t'auras pas de diplôme. Où tu auras un petit diplôme, des diplômes dont on aurait pu rappeler tout à l'heure qu'il y avait un espèce de, avec la démocratisation scolaire, un phénomène d'inflation de diplômes. Hein, il y en a de plus en plus, mais donc aussi corrélativement de dévaluation de ces diplômes. Dans la mesure où on donne plein de bacs, hein, on fait une machine à distribuer des baccalauréats, bon, le baccalauréat, ça vaut plus un clou, évidemment. Ça vaut ce que valait autrefois le certificat d'études primaires, quoi. Bon, donc, et ainsi de suite, comme ça, avec une espèce de dévaluation et d'inflation en cascade. Les hauts titres, ça va, ils ne sont pas menacés. Hein. Les polytechniciens, les énarques n'ont pas de problème d'emploi sur le marché du travail, ça va très bien pour eux, quoi. Bon, donc il y a tout en haut, ça va, et tout en bas, ben, c'est le drame, quoi, parce qu'on est victime d'une inflation d'évaluation, et ce qui est terrible, c'est en ce sens-là qu'on peut parler de violence symbolique, c'est que finalement on dit, bah ouais, mais c'est normal, quoi, qu'est-ce que tu veux, j'étais pas bon pour l'école, moi, voilà, quoi, j'aurais dû travailler mieux, etc., on pourra regretter, etc., mais voilà, on accepte en quelque sorte ce verdict scolaire comme étant légitime, voilà.
Vincent Golé-Jacques, pour conclure cette émission, on peut dire que l'école participe aussi de cette amplification des différences et des disqualifications des classes populaires sur cette fameuse lutte des classes dont vous nous parliez.
Je pense que c'est tout à fait contradictoire. Pour certains élèves, la réussite scolaire était facteur de fierté et de dégagement des sources de la honte, de l'humiliation, d'être dans une condition dominée ou autre. Et pour d'autres, effectivement, ils intériorisent l'image négative en intériorisant le fait que c'est normal qu'ils réussissent pas puisque leurs parents réussissaient pas, leurs grands-parents réussissaient pas et que c'est en fait, hein, ils intériorisent le fait que dans la condition sociale objective dans laquelle ils sont, c'est bien normal qu'ils ne réussissent pas. C'est pour ça que je pense par rapport, il faut faire le lien entre les mécanismes sociologiques de la domination, la reproduction sociale, du côté socio-économique, et les mécanismes d'intériorisation plus psychosociologiques ou socio-psychologiques qui fait autour des questions de l'humiliation et de la honte. Et donc par rapport à l'école, si l'école effectivement est la confrontation à l'humiliation, Bourdieu avait des phrases dans son auto-analyse très très intéressantes par rapport à cette humiliation qu'il a vécue lui-même, et ça explique bien pourquoi sa revanche scolaire, sa revanche sociale s'est traduite par des théories qui mettaient en avant cette question de la violence symbolique et de ses effets pour les individus et de l'intériorisation d'une mauvaise image de soi qui permet pas de réussir. Donc les deux, il faut lier ces explications sociologiques à des explications plus psychologiques pour comprendre comment la honte est effectivement à la fois 100% psychique et 100% social, et un des facteurs de la reproduction de la domination.
Merci Vincent de Gaulé-Jacques, merci Gérard Mauger d'avoir été parmi nous pour évoquer la sociologie des héritiers. Je rappelle les noms de vos ouvrages respectifs. Gérard Mauger, on peut retrouver l'ouvrage « Âge et génération » publié dans la collection « Que sais-je ». Vincent de Gaulé-Jacques, vous êtes l'auteur de « La névrose de classe, trajectoire sociale et conflit d'identité » publié chez Payot. Merci également aux techniciens de France Bleu Provence, Marrant, qui a permis ce duplex depuis les locaux d'Aix en Provence. Demain, nous nous poserons peut-être la seule question qui vaille. Que faire de cet héritage si injuste, si encombrant parfois, et pourtant si attachant? D'ici là, vous pouvez retrouver nos émissions disponibles pour l'éternité en podcast ou sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux avec le mot-clé « Entendez-vous l'écho ?».